talmudique. Dans son roman La montagne magique, Thomas Mann nous montre comment Hans Karstorp, le héros du roman, face à la maladie est contraint à prendre conscience de tout ce qu'il n'avait pas pu ou voulu voir de la vie lorsqu'il était en bonne santé, à commencer par le sens de son existence. Et l'interrogation essentielle est évidemment de savoir ce que peut opposer l'homme à la mort ou l'angoisse. La bonté et l'amour semblent être la réponse du héros de Thomas Mann. Car y a-t-il d'autre alternative à la fatalité de la mort que la sublimation que développent les qualités de cœur ? Il ne reste plus qu'à s'entraider et à s'entraimer. La liberté de l'esprit est supérieure à la mort. Il s'agit, écrit François-Bernard Michel, commentant le roman « La montagne magique », d'opposer sa liberté intime à la fatalité, c'est le mythe de Sisyphe, et de dépasser son propre symptôme en s'ouvrant à la solidarité humaine, ce que Camus développe dans La Peste. C'est la piste ouverte par la fin du roman de Thomas Mann, qui s'achève sur cette interrogation importante, de cette orgie de mort universelle, de cette fièvre maligne qui embrase l'horizon pluvieux du soir, verrons-nous jamais surgir l'amour entre les hommes ? Daniel Siboni, bonjour.
Bonjour.
Daniel Siboni, c'est un très grand plaisir de vous retrouver cette semaine pour poursuivre notre entretien sur le temps, commencé la semaine dernière. Et j'ai pensé que ce détour par la montagne magique de Thomas Mann entrait parfaitement en dialogue avec vos deux derniers ouvrages, Un cœur nouveau et À la recherche de l'autre temps, préfacé par le mathématicien Alain Cohn, tous deux parus aux éditions Odile Jacob. Ne peut-on pas d'une certaine façon transposer le texte de Thomas Mann et penser que l'angoisse née de l'évolution incertaine de la Covid qu'on ne voit pas et qui, dans la poitrine, menace pourtant le souffle, nous contraint, comme la tuberculose pour Hans Karstorp, à prendre conscience de tout ce que nous n'avons pas pu ou voulu voir de la vie lorsque le monde n'avait pas encore été confronté à ce bouleversement sanitaire, à commencer par le sens de notre existence. Une question que je trouve encore plus forte dans le contexte du calendrier actuel qui nous inscrit dans l'horizon des fêtes de lumière à venir, les fêtes de Noël qui se rapprochent à grands pas et aussi la fête de Hanouka qui commencera ce jeudi soir prochain et qui durera 8 jours. Daniel Siboni.
Oui, tout à fait. Et c'est d'ailleurs le sens de cette recherche sur le temps, c'est de ne pas se laisser enfermer dans le temps implacable et imposé des emplois du temps, des horloges, des plannings, des grilles, etc. et d'envisager qu'il y a un autre temps, même dans le temps qu'on est en train de vivre. Alors, quant au sens de l'existence, vous savez, pour moi, le sens de la vie, c'est la capacité permanente ou récurrente de questionner le sens de sa vie. C'est-à-dire qu'on peut toujours remplir cette question par des réponses magnifiques. Le sens de la vie, c'est l'amour. Le sens de la vie, c'est la prière. Le sens, c'est la solidarité. Le sens, c'est l'idéal, etc. C'est très bien, mais ça fonctionne, je crois, différemment. Et en réalité, chacun est amené à se demander périodiquement, je l'espère du moins, mais en tout cas au moins un certain nombre de fois, notamment quand la maladie l'a complètement affaibli et l'a privé de toutes sortes de prétextes, à se demander quel est le sens de ma vie, ce qui est une question vraiment positive parce que ça veut dire qu'on se détache un peu de sa vie pour la regarder du dehors et y rentrer autrement. Et souvent, les gens se la posent de façon beaucoup plus simple. Dans quel sens va ma vie ? Et si elle ne va dans aucun sens, si elle patauge sur place, c'est pas forcément en la gavant de projets urgents, etc. C'est ce qu'on fait d'ordinaire, qu'on résout la question du sens. Je pense que tout le monde sera d'accord pour dire que on peut donner sens à sa vie en restant constamment branché sur ce que j'appellerais le point d'infini, c'est-à-dire justement sur ce qui dépasse les temporalités finies, les programmes, etc. Mais que le vrai sens de la question et du sens, c'est justement de pouvoir être posé et de façon insistante et récurrente. Je suis pas trop d'accord avec Thomas Mann sur la fatalité de la mort, etc. Je crois que les gens qui meurent, ils sont pas devant une tragédie, sauf accident. Et je dis parfois que on meurt par consentement mutuel. On meurt quand on n'a vraiment plus rien à vivre. Ce n'est pas une fatalité, c'est une nécessité. Quand la fin de vie vient se présenter à vous et vous dit « Est-ce que tu as vraiment fini ?»« Non, j'ai pas fini, je voudrais faire ceci, mais je t'en prie, vas-y. » Et c'est, elle revient encore, la question. Et c'est seulement quand vous n'avez vraiment plus rien à vivre que vous pouvez dire, ben voilà, j'ai fini ma vie. Sauf que là, s'introduit une complexité magnifique. C'est qu'il n'y a pas le dernier moment de la vie avant la mort. Le dernier moment de la vie, c'est la mort. Et chacun fait avec ça d'une façon que je trouve plutôt digne. Et je pense, puisque vous évoquez le Covid, que les gens ne sont pas là devant une orgie de mort, selon l'expression de l'écrivain. Je dirais plutôt qu'ils sont devant une sensation très aiguë d'être vivant et d'être empêché de vivre pleinement par mesures de précaution, pour ménager les hôpitaux, etc. C'est-à-dire que ils sont pas dans cet abattement qui témoignerait d'un manque de vie. Ils sont plutôt dans un empêchement de vie que souvent ils récusent.
Daniel Siboni, la fête de Hanouka qui commencera jeudi soir prochain, 10 décembre, est appelée fête des Lumières parce que pendant 8 jours, on allume des bougies, chaque jour une de plus, un souvenir du miracle qui avait eu lieu dans le temple de Jérusalem au 2e siècle avant notre ère. Ce candélabre traditionnel s'appelle la menorah ou la Hanoukia, qui a la forme d'un arbre à 8 branches. Le poète Paul Celan avait imaginé le mot candèle, arbre, justement. C'est un objet d'une grande puissance symbolique. Comment l'interprétez-vous, Daniel Siboni ?
Alors, merci de cette question, parce que la menorah, enfin ce chandelier, et la fête qui l'entoure, c'est un magnifique objet temps, c'est-à-dire un magnifique objet porteur de temps. Et imaginez la menorah qui est à Rome, le chandelier sur les bas-reliefs de Titus. Elle est immobile, pétrifiée, symbole de défaite, de temple détruit. Et pendant qu'elle était là, en train de se fixer, de se sceller, de s'emmurer, un autre cycle lumineux était lancé depuis des siècles déjà, comme si ce chandelier des sages l'avait pris, l'avait allumé et l'avait projeté dans le noir de l'espace-temps, où il ne cesse de faire des tours chaque année et de revenir en comptant de 1 à 8, de façon très subtile d'ailleurs, 1 plus 1, 1 plus 2, 1 plus 3, etc. Donc ce chandelier a été comme arraché à sa pétrification et lancé comme un opérateur de temps. Un opérateur qui apporte du temps en même temps que la lumière. Et vous savez que même en physique, le temps et la lumière ont des relations très intimes. Et il apporte aussi cette aura d'un rituel dont je vous ai parlé la dernière fois. Et c'est ça la magie d'un autre temps habité par du corps, habité par des gestes. Et il me semble que c'est parfaitement illustré dans cet objet émouvant.
Vous avez parlé dans votre réflexion de fibres de temps, fibres temporelles, qui seraient ce qui accompagne l'objet temps, c'est-à-dire lorsqu'on le déploie, le temps qui est à l'intérieur impliqué dans l'objet, tout à coup il déploie des temps, mais en relation avec d'autres temps ou d'autres objets, et cela crée des intertextualités, si on peut dire, que vous appelez fibres temporelles, si j'ai bien compris, Daniel Siboni.
Oui, alors cette histoire de fibres, ça me vient de de la pratique mathématique. Simplement, il faut en repasser par la question, par le scandale même, qui est que le temps que nous vivons n'a pas grand-chose à voir en profondeur avec le point T qui se promène sur la droite réelle ou avec la pointe de l'aiguille qui parcourt le cadran. Le temps que nous vivons, et ce que j'ai appelé des fibres, c'est que pratiquement à chaque instant qui compte un peu, il indexe tout un faisceau de fibres qui sont les pensées, les actions, les images qui sont associées à ça. Et je dois vous dire que je tiens beaucoup à cette fibration parce que je l'expérimente avec le rêve. Vous savez, quand quelqu'un vous raconte un rêve, c'est une phrase. Chaque mot de la phrase, si vous voulez l'interpréter, le rêve, vous prenez chaque mot de la phrase, vous lui associez justement toutes les idées qui lui viennent quand il essaye d'associer autour de ce mot. Et donc, vous parcourez tous les mots de la phrase, vous avez un faisceau, un ensemble de gerbes, chacune étant attachée à un mot. Et interpréter un rêve, c'est parcourir, c'est ce qu'on appelle faire une section, c'est parcourir cette gerbe, ce faisceau, en prenant un point dans chacun. Eh bien, mon idée, c'est que dans la vie, on n'a pas un instant T, on a une association massive de fibres à cet instant, qui peut vous expliquer d'ailleurs ce paradoxe où, vous savez, le passé, il est passé, mais le présent que nous sommes en train de vivre là, eh bien, théoriquement, dès que on y a touché, il est déjà passé. Mais pratiquement, il a une stabilité, il est là, installé, ça va finir quand l'émission sera finie, et même on pourra prolonger ce présent, peut-être jusqu'au soir. Ça veut dire qu'il y a une densité de fibres autour des instants que nous vivons, qui empêche que ça passe avec cette implacabilité du point T sur la droite ou de la pointe de l'aiguille sur le cadran.
Alors c'est très intéressant ce que vous nous expliquez, Daniel Siboni, parce que l'un des grands maîtres du 19e siècle, Rabbi Tzadok HaKohen de Lublin, interprète la fête de Chanukah comme la fête de la loi orale, c'est-à-dire la fête de l'interprétation des textes. Et je pensais à cette phrase de Eliane Amado-Lévy-Valency qui disait que les maîtres du Talmud ont interprété les rêves comme les textes avant d'interpréter les textes comme des rêves. Et on a l'impression que tout ce que vous venez de nous dire sur la fibration du temps est lié à la dimension de l'herméneutique, à la fois dans le Talmud et dans la psychanalyse, Daniel Siboni.
Pour moi, le propre de l'homme, c'est pas le rire, les animaux rient, c'est pas l'amour, les animaux aiment. Et le propre de l'homme, c'est d'interpréter. Et d'interpréter au second et au troisième degré, etc. C'est-à-dire d'établir un échange avec d'autres espaces que l'espace manifeste, d'autres temps que le temps linéaire. Quoi de plus offert à l'interprétation que le rêve? Le rêve est, c'est le haut lieu de l'interprétation, donc de la lecture, des jeux de lettres, de la mémoire, de la perception.
Alors pendant cette fête de Chanukah, seront allumées en tout 44 bougies, et les maîtres du Talmud font remarquer que ce nombre possède une valeur numérique équivalente au mot « yeled », qui signifie « l'enfant ». Tout se passe comme si, en allumant ces lumières dont l'intensité augmente chaque jour, c'est l'enfant que nous construisons. C'est une place que nous donnons aux enfants, bien sûr, mais peut-être aussi à l'enfant qui est en nous et que nous devons préserver. Comment donner cette place à l'enfance sans tomber dans le jeunisme, Daniel Siboni?
Et le jeunisme, c'est tout à fait autre chose. C'est les apparences de la jeunesse. C'est en effet l'enfant qui est en nous, qui s'illumine avec un afflux de temps, avec un jouet nouveau, avec une fête nouvelle, et qui entre en jeu, et pas qui plonge dans un jeu dont il ne ressort jamais. C'est réellement l'enfant. Moi, ça me fait penser à l'enfant d'Héraclite. Vous savez, cette phrase que je vous avais citée, « Le temps est un enfant qui joue à déplacer les pièces de son jeu », et il conclut « À l'enfant la souveraineté ». Ça veut dire que c'est l'enfant qui finira par l'emporter. Et si tu refoules l'enfant qui est en toi, il finira bien par sortir et par s'exprimer justement à travers des signaux de l'inconscient.
Alors c'est pour cela peut-être que les maîtres de la tradition ont voulu que pendant la fête de Hanouka, cette fête des lumières et des enfants, on joue à la toupie à côté du candélabre qui est en train de brûler, Daniel Siboni.
Absolument, et c'est le jeu. Le jeu, la toupie, c'est pas seulement, c'est un jeu passionnant. Et elles sont en général munies de lettres. C'est un jeu de lettres. Et pour moi, il consonne avec un jeu de lettres. L'apostrophe, ça veut dire de l'infini des possibles, qui évidemment fait une place royale au hasard. Et à la limite, le fameux miracle qui a suscité cette fête, c'est qu'il y a eu par hasard, on a trouvé quelque chose, et par un étrange hasard de démultiplication quasi miraculeuse, on a pu avoir un peu plus de lumière. Et le un peu plus de lumière, c'est l'essentiel de la lumière, puisque n'oublions pas que la lumière en question est double. Il y a la lumière apparente et l'autre lumière. C'est comme l'autre temps, dont les kabbalistes d'ailleurs ont dit que c'était la lumière cachée.
Je crois que je suis mal dans ma peau. Et ça fait très longtemps.
Ah, on le sait.
Je me suis dit que, sûrement depuis ma naissance, je n'étais pas bien dans ce corps. Oh, merde.
Ça va aller.
Je t'assure que tout va bien, chérie.
J'ai lu plein de trucs qui en parlent. Et je crois que je suis trans.
Oh, mon cœur. Oh, tout va bien, ma chérie. Je te le jure.
Oui, c'est vrai. Nous t'aimons.
Oui, nous t'aimons. Nous t'aimons tellement fort. Nous t'aimerons toujours.
Et si on doit se retrouver avec un adorable fils au lieu d'une adorable fille, alors on sera quand même heureux.
Non, je suis pas transsexuelle. J'ai dit que j'étais mal dans ma peau et dans mon corps. Alors je veux m'en débarrasser. Ce truc, cette chose avec des membres et tout ce qui peut aller avec. Je veux pas être faite de chair. Je suis désolée, mais je vais m'échapper de ce machin et devenir numérique.
Comment ça ?
Il paraît que bientôt, il y aura des cliniques en Suisse où tu pourras aller et tu vas signer un formulaire. Ils prendront ton cerveau pour le télécharger. Dans le cloud.
Que devient ton corps ?
Recyclé. Dans la terre.
Donc ce que tu veux, c'est te suicider.
Je veux vivre pour toujours. En être virtuel, parce que c'est ça les transhumains, maman. Plus de masculin, ni de féminin, mais mieux que ça. Moi, là où je vais, il n'y a ni vie ni mort, il y a seulement des données. Je me transformerai en données.
Daniel Siboni, nous venons d'entendre un extrait du premier épisode de la série Years and Years, que commentait d'ailleurs tout récemment Adèle Van Rett avec son invité, le philosophe Dimitri Elmure, à propos de l'âme chez Platon. Cette jeune fille qui veut devenir transhumaine, elle nous pose en quelque sorte une question. Si, comme le symbolise la fête de Hanouka, où chaque jour on allume une lumière de plus, poussée à l'extrême et de manière caricaturale, ne peut-on pas arriver à la situation de cette jeune fille ? Cela nous invite-t-il pas à réfléchir aux limites de l'homme post-humain et aux frontières entre l'humain et le non-humain, Daniel Siboni ?
Oui, si on ajoute une bougie de plus, encore une, on pourrait faire un grand incendie, mais je crois que cette idée de dépasser l'humain par la technologie, Elle est émouvante, elle exprime que des gens sont fascinés par des progrès scientifiques qui sont, il faut le dire, tantôt impressionnants mais ponctuels, tantôt visiblement modestes, parce que le jour où on aura tout remplacé, d'ailleurs cette jeune fille le dit, eh bien, ce qu'on aura, c'est tout autre chose que de l'humain. Ben, très bien, on aura des robots. Et moi, je trouve que c'est pas si dramatique qu'on ait autour de nous beaucoup de robots. Ce que je trouve plus dramatique, c'est d'avoir autour de nous des êtres humains qui pensent et qui parlent comme des robots. Et là, c'est déjà fait. C'est-à-dire que vous avez bien souvent l'occasion de rencontrer, de fréquenter des personnes tout à fait honnêtes, sympathiques, mais où on sent que la partie âme a été déjà congelée, où la partie émotionnelle du cœur est déjà gelée aussi. En tout cas, si l'homme saute à pieds joints au-dessus de ses limites pour arriver au-delà de l'humain dans le transhumain, il tombera le cul par terre dans l'humain. Parce que l'humain comporte en lui-même son dépassement. Sauf, encore une fois, à faire un remplacement total. Et dans ce cas, c'est très bien dit dans ce sketch, elle sera tout autre. On aura un paquet de données. On n'en a pas d'ailleurs vraiment besoin.
Dans ce livre, Le Cœur Nouveau, vous faites le récit d'une expérience importante suite à l'invitation que vous a faite Patrick Nataf. Patrick Nataf, professeur de chirurgie cardiaque à l'hôpital Bichat. Qu'est-ce que vous a appris cette expérience, Daniel Siboni?
Ben justement, ça m'a appris à la fois la beauté, je dirais la splendeur de la technique, du savoir-faire, et en même temps son immense modestie. C'est-à-dire, on va remplacer une valve, on va faire un pontage pour mieux irriguer le cœur, etc. On va même le remplacer dans les cas limites. Mais ce que j'ai vécu, c'est un dévoilement où on voit que réellement le cœur tient entre nous, qui est aussi un objet temps. Il réalise pas moins qu'un rythme qu'il donne régulièrement. Mais justement, ce que j'ai appris, c'est que sur la base de cette pulsation régulière, le génie du cœur, c'est l'impulsion. C'est-à-dire ce qui s'exprime par un afflux de sang inattendu ou un reflux inattendu sous le coup d'émotion. Et c'est le couplage de la pulsation et de l'impulsion, donc du temps régulier et de l'instant est impulsif qui fait que ça marche. Et j'ai même vu des cas où, par exemple, imaginez quelqu'un qui a une grosse insuffisance cardiaque, à qui on installe ce qu'on appelle un cœur artificiel, qui n'en est pas un, c'est juste un ventricule artificiel, et qu'il pose à côté de lui comme un poste de radio. Il est branché, ça fait une circulation extracorporelle, etc. Il peut se balader, il a une autonomie de quelques heures. Eh bien, la personne, évidemment, quand le médecin passe, il dit « ça va ?»« Oui, ça va très bien, docteur. » Et après, quand j'ai parlé avec elle, toujours il y a un autre niveau de parole qui apparaît, qui d'ailleurs en apprend pas mal aux techniciens, et parce qu'ils n'ont pas l'occasion d'y accéder. Et quand j'ai parlé avec cette personne, elle m'a dit qu'elle faisait des rêves sanglants. Elle dit, je vois des bains de sang toutes les nuits, et pourtant, il n'y avait pas une goutte de sang. Et il me dit, je sens mon corps coupé en deux, etc. Et quand on lui a eu greffé le vrai cœur, il m'a dit, maintenant, j'ai la vue d'ensemble. Et je trouve ça très beau. Parce que pour revenir à votre question sur le sens de la vie, le questionnement du sens de la vie, c'est des moments où on s'expulse de sa vie, on est hors de sa vie, pour avoir une vue d'ensemble et on y replonge. Et la vue d'ensemble, c'est la poétique de la vie, c'est la poétique de sa présence à sa vie. Là, il était présent à sa vie. Évidemment, il y a tout. Déjà, le titre « Un cœur nouveau », je l'ai emprunté à Ézéchiel, qui fait dire à son Dieu, au peuple d'Israël, « Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un nouveau souffle. J'ôterai de votre chair le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. » Qu'est-ce que c'est un cœur de pierre? Et justement, c'est un cœur qui, en termes bibliques d'ailleurs, c'est un cœur non circoncis, non incisé, non blessé. Il y a un beau vers des psaumes qui dit « Une offrande à Dieu est une âme blessée. » C'est-à-dire, c'est la blessure par laquelle on montre sa finitude et en même temps, on reconnaît sa souffrance et on a envie de s'en tirer. C'est ça qui est une offrande de reconnaissance et une tentative d'assumer ce cœur de chair, ce cœur entamé. Et c'est très concret. J'ai parlé à une personne qui, parce qu'il y a des gens qui se déchirent la aorte, et ce qui est incroyable, il faut un stress inouï pour ça, parce que la aorte, c'est 3 tuyaux emboîtés, donc ça tient, c'est très fort. Eh bien, elle m'a dit, dans l'entretien, comme ça, c'était pas en tant que psychanalyste, j'étais là, présent, pour discuter, dialoguer. Elle m'a dit, j'étais au téléphone avec mon amoureux, et on était en train de rompre, et quand ça a été dit que c'était fini, j'ai senti un déchirement au niveau du cœur. Elle s'est retrouvée aux urgences, et ont commencé les opérations, en série, etc. C'est-à-dire que réellement, on croit que c'est seulement les schizophrènes qui traduisent directement en termes de corps les mots et qui ont peur de se noyer dans un verre d'eau au sens propre. Et non, c'est tout le monde. C'est que l'âme et la mémoire et la pensée sont à la fois posées dans le corps, stockées dans le corps. Et en même temps, l'âme est un opérateur de connexion entre elle-même et le corps, hein, qui fait que ça communique tout le temps. Et ça communique donc à tous ces moments. Et c'est grâce au fait qu'on est vivant qu'arrivent ces drames. Si cette personne n'avait pas de cœur, justement, au sens, si elle l'avait eu un peu pétrifié, eh ben elle serait rentrée chez elle. Et ce serait tout de suite branché sur un site de rencontre.
Nous avons commencé, Daniel Siboni, l'émission avec une allusion à Thomas Mann et la montagne magique. Nous avions parlé la semaine dernière de l'importance de l'art. Ma question aujourd'hui, c'est quel rôle a pour vous la littérature en général et en cette période de Covid et bientôt post-Covid, nous l'espérons. Quel rôle a pour vous la littérature dans ses relations à la santé mentale individuelle et sociale, dont les indicateurs nous montrent aujourd'hui à quel point elle peut se dégrader rapidement, Daniel Siboni.
Et vous savez, pour moi, la littérature, c'est apprendre au sens large, c'est le travail de la lettre. Le livre sur le temps, je l'ai écrit en dialogue avec des chercheurs, bon, qui lisent bien sûr de temps à autre, mais qui sont dans un travail de la lettre et de déchiffrement du cosmos et du corpus mathématique qui est un univers transfini. Et donc, pour moi, voilà, il y a une littérature, une littération d'un travail d'interprétation permanent qui fait que on reste vivant. Et si on n'a pas ce travail de la lettre, eh bien, on se branche sur le travail de la lettre qu'a fait tel écrivain ou tel cinéaste ou tel artiste, car les artistes font un travail de la lettre, même les artistes plasticiens, et donc on se branche dessus et il nous porte sur son cheval galopant vers un autre temps que lui a expérimenté. Bien sûr que c'est essentiel à la santé mentale. Mais moi, je le prends au sens générique, au sens de l'engendrement de la texture dans laquelle se découpent nos vies. Et pour moi, une vie qui n'est pas contiguë, qui n'est pas adossée à ce travail de texture qui fait que on tricote et on détricote ce qui nous arrive, eh bien, c'est une vie menacée, exposée à des points morts qui peuvent s'accumuler. Donc, oui, littérature au sens de travail de la texture existentielle.
Merci Daniel Simoni pour ces deux semaines de profondes réflexions que vous nous avez offertes en nous faisant découvrir entre autres les concepts d'objet-temps, de fibre temporelle, d'autre temps, du sens de la vie articulé au rythme des possibilités nouvelles du cœur qui apprend à battre différemment quand on trouve les mots justes et généreux qui donnent des ailes à l'existence. Je rappelle le titre de vos deux très beaux livres, Un cœur nouveau avec une postface de Patrick Nataf et À la recherche de l'autre temps avec une préface d'Alain Cohn, tous deux aux éditions Odile Jacob. Merci encore Daniel Simoni.
Merci.
C'était Talmudic, une émission de Françoise-Anne Ménager et Marc-Alain Waknin, à la prise de son aujourd'hui Nasser Moussaoui, à la réalisation Doria Zénine. Vous retrouverez toutes les indications biographiques et bibliographiques de notre invité sur le site de France Culture à l'onglet Talmudic. Françoise-Anne et moi-même, ainsi que toute l'équipe de Talmudic, vous souhaite de bonnes fêtes de Hanouka. Kol Touv, Leïtraot, au revoir, bon dimanche à tous, bonne fête et à la semaine prochaine.